13h, Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Bonjour à tous, bonjour Marina.
Bonjour Fabienne.
Ravie de vous accueillir dans cette édition de la mi-journée. À la une, 16e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Rassemblement une fois encore sur les Champs-Élysées à Paris pour marquer le coup d'envoi du mois de mars avec en ligne de mire pour les Gilets jaunes la fin du grand débat national dans deux semaines. À Strasbourg, la stèle qui marque l'emplacement de l'ancienne synagogue rasée en 1940, vandalisée. Vous entendrez la réaction du premier adjoint du maire de la ville. Toujours dans le journal de la mi-journée, l'assaut final lancé en Syrie contre l'ultime bastion de l'État islamique hier soir. La démonstration de force des Algériens descendus en nombre dans la rue à travers tout le pays hier. Qu'est-ce qui se joue en Algérie alors que Bouteflika doit déposer sa candidature demain pour un cinquième mandat? Le chercheur franco-algérien Brahim Oummansour est mon invité. Le journal des sports, Perrine Lafont, championne du monde de ski de bosse pour la deuxième année consécutive. Et puis la météo, des nuages dans l'Est, mais toujours de la douceur jusqu'à 20 degrés à Nîmes.
Europe 1.
16e samedi de mobilisation des Gilets jaunes et une fois encore un rassemblement symbolique aux abords des Champs-Élysées. On retrouve sur place Victor Delande, des Gilets jaunes, Victor, qui veulent marquer le coup car pour eux, ce mois de mars qui s'ouvre est capital. Dans deux semaines, ils vous l'ont encore répété ce matin, Victor, ce sera la fin du grand débat national.
Oui, et le slogan qui reprend cette idée que j'ai beaucoup entendu ce matin, c'est « Le printemps arrive, les fleurs vont éclore ». Ces mots sont justement écrits en noir sur le gilet jaune d'Alain, agent SNCF à la retraite. Il continue de suivre ces manifestations du samedi pour peser jusqu'à la fin du grand débat national.
On nous enfume avec la discussion qui est en cours, mais je pense que déjà, les grandes lignes sont ordonnées par notre président. Et puis après, il faut maintenir la pression parce qu'on ne sait pas comment il va interpréter nos demandes.
Françoise, elle est un peu plus optimiste sur les conclusions du débat national, mais il faut montrer au pouvoir que le mouvement des Gilets jaunes ne faiblit pas.
On attend de voir ce qui va se passer, donc on est toujours là et on sera toujours là, même après. Donc il ne faut pas qu'il oublie qu'on sera présent à tout moment et on l'attend au virage, évidemment on l'attend au virage.
Tous les manifestants avec qui j'ai pu discuter me l'ont affirmé, il faut tenir jusqu'au samedi 16 mars, ce sera le lendemain de la clôture du débat national. Et les Gilets jaunes promettent déjà un samedi noir pour faire basculer le rapport de force en leur faveur.
Et Victor Delande en direct des Champs-Élysées à Paris en région. Lille fait figure de principal point de ralliement avec la volonté des organisateurs de rassembler cet après-midi des manifestants venus de toute l'Europe. L'autre information de la matinée, c'est la stèle d'une ancienne synagogue vandalisée à Strasbourg. Elle marque l'emplacement de la synagogue qui a été rasée par les nazis en plein centre de la ville. C'était en 1940. Écoutez la réaction d'Alain Fontanelle, le premier adjoint de la mairie de Strasbourg que vient de joindre Romain Hoquet.
Clairement, elle est décelée et elle a basculé par rapport à son socle. Donc voilà, ça c'est le seul élément factuel que l'on ait. On ne sait pas si ça a été fait au petit matin, dans la nuit ou dans la soirée. Et elle est posée sur ce qu'on appelle l'allée des Justes, qui est une allée qui a été baptisée ainsi pour donner, rendre hommage aux Justes qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre. Donc c'est un endroit qui est très marqué historiquement, et cette synagogue elle a été détruite en 1940. C'est l'ancienne synagogue de Strasbourg qui a été détruite en 1940 par les nazis. Les gens s'arrêtent spontanément devant la stèle et il y a beaucoup de colère. Il y a un trop-plein là, on a tous envie de dire stop là, ça suffit, on n'en peut plus.
Alain Fontanelle, le premier adjoint de la mairie de Strasbourg, qui vient donc de joindre Romain Hoquet, alors qu'on a appris ce matin donc la vandalisation de la stèle d'une ancienne synagogue dans la ville. À l'étranger, l'offensive a donc été lancée hier soir contre l'ultime bastion de l'État islamique, à ce final contre la poche d'El Barouz, un réduit d'à peine un demi-kilomètre carré à la frontière entre la Syrie et l'Irak, qui avait été retardé pour laisser sortir les civils. On retrouve sur place l'envoyé spécial d'Europe 1, Didier François.
La ligne de front s'est embrasée à 18h hier soir, alors que le dernier rayon de soleil s'éteignait sur l'immense plaine de Barouz et la longue piste en terre menant au centre-ville qui toute la semaine avait servi à évacuer pêle-mêle les civils retenus en otage, les blessés les plus graves et les familles de djihadistes fuyant la mort. Ce corridor humanitaire ouvert par les combattants kurdes comme une incitation aux djihadistes de Daesh à se rendre sert désormais d'axe principal à l'assaut lancée contre le dernier réduit territorial de l'État islamique. Au sol, le fer de lance de cette offensive, ce sont les miliciens des forces démocratiques syriennes, kurdes pour la plupart, appuyés par quelques tribus arabes, soutenus et conseillés par une centaine de commandos des forces spéciales occidentales, alors que dans le ciel se relaient en permanence les chasseurs-bombardiers de la coalition. On entend leurs puissants réacteurs qui grondent au-dessus des nuages et on voit au loin l'explosion de leurs bombes guidées avec précision sur les principaux points de défense des djihadistes, des casemates coiffant des tranchées reliées à des abris par de profonds tunnels, des positions retranchées préparées avec soin depuis des mois et dans lesquelles seraient entassés entre 1000 et 1500 terroristes selon les estimations très parcellaires des officiers kurdes. La bataille qui commence sera dure, ils le savent et ne font aucun pronostic sur la durée probable des combats, mais ils ont une certitude, quel que soit le temps que cela prendra, l'offensive se conclura sur une défaite militaire de Daesh.
Didier François, envoyé spécial d'Europe 1 en Syrie, toujours à l'étranger, nouvelle démonstration de force des Algériens hier pour dire non à Bouteflika. Ils ont été plusieurs dizaines de milliers à descendre dans la rue à travers tout le pays. Manifestation majoritairement dans le calme, à l'exception de heures en fin de soirée à Alger, avec des manifestants repoussés à coups de gaz lacrymogène. Cela s'est soldé par 45 arrestations, 56 blessés parmi les policiers selon les autorités, 7 blessés chez les manifestants, toujours selon la police. Mais ce que veut retenir Saïd Saadi, député d'Alger et ancien président du Rassemblement pour la culture et la démocratie, c'est l'attitude exemplaire de la jeunesse.
Très majoritairement, c'était toute la jeunesse. C'était assez surprenant parce que cette catégorie sociale a été particulièrement ciblée pendant des dizaines d'années par le système politique en place qui a voulu l'endoctriner, l'aliéner par l'école, la mosquée, les médias, pour en faire une somme d'individualités décérébrées, sectaires, intolérantes. Et j'ai vu une belle jeunesse hier, tout à fait généreuse, disponible. Et pour vous donner une petite idée, après les manifestations, ce sont des squads de jeunes garçons et de filles qui sont passés dans les grandes artères d'Alger pour ramasser les bouteilles d'eau et même les capsules de bombes lacrymogènes qui ont été envoyées à certains endroits par la police.
Est-ce que les slogans ne se sont pas durcis? Le peuple veut la chute du régime. Vous avez entendu cela, Saïd Saadi?
Ah oui, c'était même les slogans les plus dominants. Je crois que pour la majorité des manifestants, l'idée du cinquième mandat, c'est déjà quelque chose de dépassé. C'était la chute du régime, système des gages pour le changement, il y en a marre du pouvoir, etc., etc. La dominante, c'était ça.
Saïd Saadi, qui était l'invité de Patrick Cohen ce matin dans C'est arrivé cette semaine sur Europe 1. Et dans quelques minutes, nous reviendrons sur cette démonstration de force des Algériens avec mon invité, le chercheur franco-algérien Brahim Oumansour. Dans un instant, Jean-Luc Mélenchon et deux de ses lieutenants convoqués par la justice la semaine prochaine. Convocation dans le cadre de l'enquête sur les perquisitions au siège de la France insoumise. C'était en octobre dernier.
Midi 30, 13h. Le journal de la mi-journée avec Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Midi 39, vous écoutez Europe 1, le journal de la mi-journée avec vous, Fabienne Lemoyle.
Jean-Luc Mélenchon, convoqué par la justice la semaine prochaine, le chef de file de la France insoumise doit être entendu par les enquêteurs après les perquisitions mouvementées de son domicile, mais surtout du siège de son parti en octobre dernier. Une convocation, Pierre de Cossette, qui intervient alors qu'on est à 3 mois des européennes, d'où le luxe de précaution que vont sûrement prendre les juges.
C'est ce qu'on appelle marcher sur des œufs. À 2 mois des européennes, la police judiciaire parisienne et le parquet de Bobigny ont de quoi se faire des nœuds au cerveau. Comment interroger les figures de proue d'un parti d'opposition sans que cela ne prête à la moindre récupération politique, d'où qu'elles viennent? Dans ce dossier, les enquêteurs ont souhaité entendre 8 personnes, dont plusieurs députés. Pas question de procéder à des gardes à vue qui, au-delà du symbole, nécessiterait l'accord du bureau de l'Assemblée, le meilleur moyen de générer de l'hystérie. Pas question non plus de donner l'impression de vouloir se venger d'une attitude pour le moins agressive avec les collègues policiers présents lors des perquisitions, ni des magistrats déjà accusés de tous les maux dans cette affaire par les partisans de Jean-Luc Mélenchon. Voilà pourquoi 7 convocations ont été adressées pour la semaine prochaine, le leader de la France Insoumise, mais aussi Alexis Corbière ou Adrien Quatennens, avec pour leur permettre de s'organiser 2 dates possibles. Des auditions qui ont commencé cette semaine avec l'un des proches conseillers de Jean-Luc Mélenchon, le conseiller d'État Bernard Pignerol.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Dernière semaine de vacances pour la zone C et je vous emmène à la découverte de la plus longue piste de ski d'Europe, direction l'Alpe d'Huez, avec Hélène Terzian-Touchousse.
Avant de s'élancer sur la piste de 16 km de long, il faut prendre deux téléphériques. À travers la vitre, Julien observe le massif, même pas peur.
Donc là, on va descendre visiblement la plus grande piste d'Europe.
Prêt ?
Voilà, je suis prêt.
15 minutes plus tard, nous voilà au sommet du Pic Blanc, départ de la Sarenne. Philippe ne se lasse pas de la vue panoramique à 360 degrés.
On a 3300 mètres. On peut voir le Mont Blanc tout au fond, qui est le grand paradis, qui est un des sommets italiens de l'Est. En face de nous, les trois aiguilles d'Arve. Bon, ben maintenant, on va mettre nos skis, puis on va descendre Sarenne.
Allez, c'est parti.
La piste est d'abord étroite, bien raide, quelques bosses, parfois du verglas. Puis elle s'élargit, la glisse devient plus fluide, Philippe savoure.
Ça glisse bien, la neige est bien damée, les conditions sont vraiment top, grand soleil, il fait chaud.
Allez, on continue.
Le parcours s'achève sur un petit passage en forêt. Verdict pour Jean-François qui n'avait pas descendu la piste depuis 22 ans.
C'est super sympa. L'arrivée là entre les arbres avec le petit ruisseau. Pas du tout comme dans mes souvenirs, mais j'ai appris qu'il l'avait fait évoluer. Donc du coup, un peu moins impressionnant que dans mes souvenirs.
Avec un rythme soutenu, comptait 30 minutes de descente, un peu moins de 10 pour les très très bons skieurs. L'Alpe d'Huez et l'Interzian Europe 1.
Le journal des sports.
Allez, tout chousse aussi avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Fabienne.
C'est l'un des événements sportifs du week-end, les championnats d'Europe d'athlétisme en salle à Glasgow. On attend beaucoup des Français, notamment de Pascal Martineau-Lagarde.
Trop, peut-être. Le Français dispute les séries du 60 mètres haies, discipline toujours très spectaculaire. Pascal Martineau-Lagarde fait partie des favoris, c'est vrai, mais n'est pas le grand favori. Quant à jouer les fers de lance, les porte-drapeaux de l'athlétisme bleu-blanc-rouge, certainement pas. Pascal Martineau-Lagarde le dit tout net, je ne suis pas un leader.
Alors, je me sens pas leader, pas plus que ça. Je me sens peut-être leader français, mais pas leader européen ni mondial actuellement. Je suis champion d'Europe en titre en été. Il faut que je le redevienne en hiver, mais je ne domine pas la discipline et ça ne sera pas gagné d'avance. Donc, faudra se battre.
Voilà, certains chantaient « Je ne suis pas un héros ». Pascal Martineau-Lagarde qui n'est pas un leader au micro de Corinne Boulou. La France qui a déjà une médaille au compteur. Solène Ndama a pris la médaille de bronze au pentathlon avec un total de 4723 points. Elle égale le record de France d'Antoinette Nanajimou. Il fallait bien ça pour se consoler parce que de la déroute des perchistes français, pour la première fois depuis 17 ans, aucun d'entre eux ne s'est qualifié pour la finale.
C'est Jean-Claude Perrin qui doit être bien triste. Oui. Le football avec le programme perturbé par les reports et les décalages. Mais la 27e journée de Ligue 1 va tout de même pouvoir commencer.
Et avec le PSG en ouverture, les Parisiens se déplacent à Caen, 18e. Autant dire que les Normands ne partent pas favoris. Loin de là, Paris qui continue de soigner ses blessés. Neymar n'est pas là, Cavani non plus. Et l'Uruguayen pourrait même manquer le match retour contre Manchester United la semaine prochaine au Parc. C'est bien de voir la vie en rose et donc d'être optimiste. Mais l'entraîneur Thomas Tuchel reconnaît qu'il a un peu forcé la dose sur l'optimisme.
J'étais un peu trop optimiste la dernière fois. Si je suis réaliste aujourd'hui, c'est très, 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 très court pour Manchester avec Eddie. Et c'est absolument normal parce qu'il a fait beaucoup de travail jusqu'à ce moment et on doit attendre, mais pour demain, ce n'est pas possible.
Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, au micro de Julien Froment. Camp PSG, coup d'envoi à 17h. Deux autres rencontres sont prévues ce samedi. Elles débutent toutes les deux à 20h. Angers-Monaco et Reims-Amiens. Match à suivre dans Europe Sport, présenté par Lionel Rousseau. Dès 20h, justement. Et puis un rappel, Bordeaux-Montpellier, prévu initialement hier soir, a été reporté à mardi 19h. La rencontre Nîmes-Rennes a elle aussi été reportée, mais la date n'est toujours pas fixée.
Un coup d'œil sur les résultats de la Ligue 2. Les principaux enseignements, Christophe.
Brest reste deuxième au classement après sont nuls deux partout à Châteauroux, mais les Bretons perdent des points précieux sur Metz qui jouera demain en vue du titre de champion de Ligue 2. A signalé le carton de Nancy qui bat Sochaux 4-0 et sort de la zone de relégation pour la première fois de la saison.
Et puis on revient au ski pour terminer.
Oui, Perrine Laffont remporte la Coupe du Monde de ski boss. La championne olympique est sacrée pour la deuxième année consécutive. Le ski tout court alpin, l'Italien Dominique Paris remporte la descente de Gvitfell en Suède. Et puis le tennis avec un duel très attendu cet après-midi entre Roger Federer et Stefanos Tsitsipas en finale du tournoi de Dubaï. Le Suisse peut remporter le 100e titre sur le circuit. Autre finale intéressante à Acapulco, Nick Kyrgios sera opposé à Alexander Zverev. Match à suivre la nuit prochaine.
Merci beaucoup Christophe Lamarre. Il nous reste à voir le temps et ce matin, pas beaucoup d'évolution à attendre, Valérie Darmon.
Effectivement Fabienne, surtout sur l'Est, au ciel gris et couvert, légèrement pluvieux, même des Vosges à Rhône-Alpes. Dans l'Ouest, le temps était plus bouché ce matin, en début de matinée. Il est en train de se dégager par par endroits, avec davantage de soleil dans le sud-ouest et quelques belles éclaircies le long de la Manche ainsi qu'en Poitou. Sur le reste de la moitié sud, c'est-à-dire entre l'Occitanie et la région PACA, il fait beau sous un ciel parsemé de nuages d'altitude inoffensifs. Mistral et Tramontane soufflent fort à 70-80 km/h en pointe. Les températures toujours très douces pour la saison, quoique en baisse entre 11 à Rodez et 20 degrés à Nîmes, 13 degrés annoncés à La Rochelle et Clermont-Ferrand, 14 au Havre et à Amiens, 15 degrés à Châteauroux, à Nantes et à Vannes, 16 degrés à Saint-Brieuc, à Toulouse et à Paris, 18 à Marseille et 20 degrés à Sète.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Dans un instant, nous allons revenir sur la démonstration de force des Algériens hier. Ils ont été plusieurs dizaines de milliers à descendre dans la rue pour dire non à un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Qu'est-ce qui se joue derrière ces manifestations? On en parle avec mon invité, le chercheur franco-algérien Brahim Oummansour.
La suite de votre journal de la mi-journée avec vous, Fabienne Lemoile, et votre témoin de la semaine.
Les Algériens sont donc descendus une nouvelle fois dans la rue hier à travers tout le pays, Alger, Oran, Constantine, mais aussi Blida, Tizi Ouzou, pour dire non à un cinquième mandat de Bouteflika qui fête aujourd'hui même ses 82 ans, cortège imposant, le plus souvent dans le calme, à l'exception, on le disait dans le journal hier soir, en fin de manifestation à Alger, de quelques heures avec les policiers qui ont repoussé de jeunes manifestants à coups de gaz lacrymogène. Démonstration de force donc des Algériens, alors que c'est demain la date butoir pour le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle. Avec moi en studio pour comprendre ce qui se joue en Algérie, Brahim Oummansour, chercheur auprès de l'IRIS, l'Institut de Recherche Internationale et Stratégique. Bonjour.
Bonjour.
Tous les observateurs ont été marqués, je le disais, par la volonté des manifestants d'éviter les débordements. On a entendu dans le journal de 12h30 Saïd Saadi, ancien président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, raconter ces jeunes qui sont allés jusqu'à ramasser les bouteilles d'eau jetées par les manifestants. Et c'est cela qui vous a marqué aussi? Ça témoigne de quoi, selon vous?
En effet, c'est impressionnant même. Donc, la mobilisation actuelle en Algérie est un événement historique en soi. Il y a eu des manifestations auparavant. Il y a eu des émeutes. Voilà. Donc,
la
nature de la mobilisation est très importante. Surtout qu'elle émane d'appels d'anonymes sur les réseaux sociaux et non pas une mobilisation issue ou organisée par des partis politiques ou des syndicats qui ont l'habitude ou qui sont structurés, totalement en dehors des structures traditionnelles politiques. Et là, il y a une mobilisation qui est à la fois en termes d'ampleur aussi, donc sur le au niveau national, à l'échelle nationale, dans plusieurs villes, y compris donc Alger, des dizaines de milliers, voire plus, et qui suivent deux mots d'ordre, donc le mot de l'engagement donc anti-cinquième mandat, mais qui a toujours été accompagné par d'autres appels à une mobilisation pacifique, d'autres appels au calme et à éviter la dérive.
C'est la jeunesse qui est l'une des clés justement de ce mouvement. On va rappeler un chiffre qui est marquant, 45% de la population en Algérie a moins de 25 ans.
En effet, donc c'est une mobilisation des jeunes principalement, même s'il y a une solidarité générationnelle, on voit quand même c'est transgénérationnel avec une domination d'une jeunesse. C'est un pays jeune déjà, l'Algérie est un pays jeune et c'est une jeunesse très politisée, mobilisée, même si on peut s'étonner pourquoi dans le passé, au quatrième mandat ou voire avant,
on n'a pas eu ces gens qui sont descendus de la rue.
De mobilisation.
Pourquoi alors aujourd'hui, maintenant?
Plusieurs éléments jouent un rôle sur cette mobilisation ou ont amené ou conduit à cette mobilisation. Premièrement, la longévité de la présidence de Bouteflika,
qui fête ses 82 ans aujourd'hui, symbolique. J'ai envie de dire.
Donc aujourd'hui, c'est considéré comme un mandat de trop, comme un acte de trop. Donc la prudence avec suite à l'expérience la douloureuse des années 90, mais aussi les chaos, les biens syriens qui marquent les esprits des Algériens.
On va rappeler justement ça, effectivement, le régime qui fait planer la menace du chaos avec ce que disait le Premier ministre Ahmed Ouyahia jeudi devant le Parlement. Effectivement, regardez, la Syrie, ça a commencé par des roses, ça finit par une guerre civile. Ce parallèle, ça veut dire quoi ?
C'est bien sûr, le régime actuellement joue sur cette peur, bien sûr. Bon, mais je trouve qu'elle est...
Ça a été énormément dénoncé dans la manifestation hier.
Elle est exagérée. Moi, je dis aussi, c'est aussi la responsabilité d'un système, des autorités aussi, de préparer une transition. Pourquoi une transition n'a pas été préparée, ne serait-ce que pendant ce dernier mandat? Donc, on sent quand même il y a à la fois une société qui évolue très rapidement, la société algérienne, la jeunesse qui évolue très rapidement et qui est opposée à une lenteur. Un immobilisme même au niveau de la classe politique dirigeante, ce qui crée aujourd'hui ce choc donc entre deux générations, si j'ose.
Mais Brahim Mansour, ce qu'on voit, c'est le calme effectivement dans les manifestations, avec des slogans quand même, comme vous le disiez, au-delà même de ce cinquième mandat, le peuple veut la chute du régime, c'est ce qu'on entendait hier dans les rues d'Alger. Demain, c'est cette date butoir, avec la déclaration normalement de la candidature de Bouteflika. On peut imaginer autre chose, on peut imaginer qu'il ne se déclare pas.
C'est possible. Pour le moment, tous les discours de son entourage, de la direction de sa campagne aussi, confirment ou affirment le maintien de sa candidature.
Sachant que lui est hospitalisé en ce moment à Genève.
Voilà. Mais le fait que c'est maintenu ou qu'on laisse le dépôt du dossier jusqu'au dernier jour, ça laisse cette possibilité de présenter un deuxième ou un autre candidat.
Mais il y a une relève, justement, c'est ce que vous nous disiez à l'instant, la transition, la relève n'a pas été préparée. Diriger ?
Malheureusement, aujourd'hui, comme le champ politique est fermé, politico-médiatique est fermé, je parle principalement des grands médias, parce qu'il y a quand même une presse écrite qui est critique, qui a toujours existé, qui a toujours critiqué, pris des positions anti-système.
Et on a vu pour la première fois la télévision d'État relayer justement ces manifestations hier dans le journal télévisé.
Justement, oui, voilà, donc au début, ça n'a pas été relayé. Il y a un changement donc de politique, bien sûr, pour temporiser. Tant mieux, parce que la télévision d'État, elle est aussi au peuple. Donc oui, c'est tout à fait normal qu'elle couvre ces manifestations qui sont, je le répète, calmes et impressionnantes par la nature de l'organisation et de la mobilisation.
Ça peut déboucher justement sur quoi ?
Tout dépend. Aujourd'hui, cette population mobilisée marque un point dans le sens où elle s'impose comme acteur dans le champ politique, dans le jeu politique aujourd'hui. Mais ça reste, on attend, il faut quand même voir aussi la réaction du régime, du gouvernement actuel.
C'est ce qu'on attend aujourd'hui.
Voilà. Est-ce que ça va être une ils vont prendre le choix pour tempériser, pour le choix de l'apaisement, voire quitte à proposer un autre candidat, je ne sais pas, mais au moins temporiser sur les discours aussi, ou passer ou faire le choix de la défiance, mobiliser d'autres populations en faveur de la candidature de Bouteflika.
On voit beaucoup d'entente. Une dernière question, la France dans tout cela, est-ce qu'elle peut jouer un rôle ou quoi qu'elle dise de toute façon, ce sera vécu comme une ingérence, sachant que les partisans et opposants de Bouteflika vont manifester demain, eux, à Paris?
Justement, c'est un peu compliqué la situation, la position de la France, elle est compliquée. C'est un pays proche de l'Algérie et les relations, elles sont très, très, très étroites en termes de coopération économique, politique, sécuritaire. C'est aussi, il y a une proximité historique, culturelle, géographique qui fait que aujourd'hui Paris s'inquiète, mais en même temps, moi, je trouve que toute réaction, ne serait-ce que par un discours, toute prise de position serait interprétée comme une ingérence, y compris par les populations.
Que ce soit par ceux qui manifestent que par le pouvoir en place.
Voilà.
Merci beaucoup, Brahim Mansour. Je rappelle que vous êtes chercheur auprès de l'IRIS, l'Institut de Recherche Internationale et Stratégique. Et on va voir quelle va être la réponse, effectivement, des autorités algériennes à cette démonstration de force hier dans la rue à travers tout le pays en Algérie. Sachant que, on le rappelle, c'est demain la date butoir pour la déclaration de candidature de Abdelatif Bouteflika pour un cinquième mandat. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Et jusqu'à 14h, nous prolongeons, vous le savez, cette tranche d'information avec tout terrain, avec un grand dossier sur le Salon de l'agriculture où Europe 1 a pris ses quartiers depuis une semaine. Nous serons avec Maud Descamps et puis Anne-Laure Jumet nous invitera à cuisiner parce que c'est la grande mode cette année au Salon de l'agriculture.
Et on vous retrouvera également pour l'essentiel de l'actualité, Fabienne Lemoyle.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.